Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraougo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama ce soir. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. On n'a pas encore Jules?
Si, bien sûr. Bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
Là, je vous entends bien. Élisée Mpatine est avec nous depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Et donc, en attendant de retrouver Amdine Sy en France et Amine Birouk au Maroc, de même que Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. On va commencer cette émission. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons avec la CAN des moins de 17 ans. On connaît les affiches des demi-finales. Le Nigeria et l'Angola se sont qualifiés dans le groupe A. Dans le groupe B, la Guinée et le Cameroun se sont tirés d'affaire au détriment du Maroc et du Sénégal. Il existe cependant une grosse polémique autour de l'âge de certains joueurs camerounais et guinéens. C'est le Maroc qui a allumé la première mèche. Son président de fédération, Fawzi Legdia, également premier vice-président de la CAF, dit avoir déposé une demande auprès, auprès de l'institution continentale pour dénoncer l'âge de certains joueurs camerounais. On écoute tout de suite Fawzi Legdia.
Je vous dis et je vous confirme en tant que vice-président de la CAF que la CAF est incapable d'organiser un tour. En tant que Marocain, moi je suis fier des petits jeunes qui sont là avec leur grinta. Ce sont des jeunes qui ont moins de 17 ans vraiment. Ce sont des gamins qui ont 16 ans et demi, qui veulent jouer au football, mais malheureusement, on ne peut pas jouer avec des différences d'âge qui dépassent 7, 8, 9 ans, c'est pas possible. On a adressé la lettre, la nuit, il a débarqué où je me suis rassuré que le président, je l'ai appelé, on a échangé par rapport au contenu, les Ingolais. Aujourd'hui, ils vont refaire l'IRM en présence des médecins de toutes les équipes, ensemble, pour voir les résultats et voir le test. Et le cas échéant, la voie du TAS est ouverte. On va dîner chez le FIFA. Et on va crier haut, on va aller, on va se battre. S'il faut faire des nuits blanches, on les fera. Mais il faut aller jusqu'au bout et il faut corriger les choses. Les choses sont flagrantes, sont claires, sont nettes.
C'était donc Fawzi Legdia, président de la Fédération Royale Marocaine de Football au micro d'Amine Birouk. La réponse du Cameroun ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, la FECAFOOT a balayé d'un revers de main ses accusations. Je cite, la Fédération Camerounaise de Football, qui ne saurait rester indifférente, range cette sortie médiatique dans le registre du mauvais perdant. Alors, Jules, c'est vrai qu'il y a l'IRM, mais souvent, visiblement, on constate, on va le dire tristement, qu'il y a un problème parce que le physique, l'intensité, l'endurance que certains joueurs laissent voir lors de ces compétitions de petite catégorie là, trahit souvent, le plus souvent d'ailleurs, l'âge à eux donné.
Oui, mais c'est que ces dernières années, on a eu des cas qu'on a eu à relever comme cela. Le plus célèbre, c'est ceux de la Gambie qui avait d'ailleurs gagné la compétition, puis celui du Niger. Mais il faut dire que la polémique a peut-être raison d'être, mais il y a la donne a changé. Et quand vous voyez un joueur comme Mbappé actuellement, c'est 17 ans l'année passée. C'est l'année passée, on a commencé à le voir comme ça, il a ce gabarit. Donc avec l'alimentation enrichie que nous avons maintenant, la prise en charge très précoce des joueurs, nous retrouvons avec des joueurs d'un âge... relativement bas, mais qui ont des gabarits disons qui leur permettent de jouer même dans des compétitions d'élite. Alors, ce qui a lieu de faire, c'est de surveiller la traçabilité de la carrière de ces joueurs. On a des compétitions inférieures, on a la possibilité de faire des enquêtes pour revenir sur leur parcours. Mais le gabarit, à l'heure actuelle, même dans les équipes les plus physiques comme la Juventus, on a recruté des joueurs de 16 ans qui ont commencé même déjà à jouer dans l'équipe première.
Merci bien, Jules Valentin Ngoué. Alors, Élisée, on dirait que ce problème de trucage d'âge à la peau due en Afrique, on se rappelle encore récemment du cas du Bénin.
Oui, réellement, puisque c'était lors des éliminatoires, de ces éliminatoires justement, qui ont fait que le Bénin a été éliminé du côté de Niamey, où plusieurs joueurs Suite à ces tests-là, on a remarqué que plusieurs joueurs ont plus que 17 ans aujourd'hui. C'est un problème, hein, c'est un problème fréquent sur le continent africain. C'est vrai que quand vous prenez des équipes comme le Cameroun, le Nigeria ou encore l'Angola, Jules l'a déjà dit, on ne peut pas regarder seulement la physique, hein, pour la condition physique, j'allais dire, hein, pour justifier cela, puisque entre-temps, hein, la CAF même a procédé à des tests IRM avant même la compétition, avant même le début de la compétition. Il y a certains joueurs qui ont été écartés. Et si le Maroc, hein, continue à porter plainte contre la sélection camerounaise, bien, bon, je n'aimerais pas trop rentrer dans cette polémique-là, mais une chose est sûre, la CAF a dû prendre des mesures, hein, pour pouvoir vérifier réellement, hein, si ces joueurs ont ces âges-là. Maintenant, bon, peut-être que c'est la forme physique des joueurs qui ont fait que le Maroc a continué pas à porter plainte. Sinon, c'est un problème récurrent en Afrique, il faut le dire, Yacouba, et quand il s'agit de cette catégorie d'âge, on voit souvent certains pays tricher, et c'est suite à cela, hein, certainement que les Marocains, les Sénégalais ont porté réserve. Et c'est pas seulement le Cameroun, il y a aussi la Guinée qui a obtenu sa qualification in extremis, hein. Donc c'est-à-dire que il y a aussi ce problème-là de qualification qui est mis en cause.
En attendant donc l'issue de ces différentes plaintes marocaines et sénégalaises, on aura les oppositions suivantes, hein, en demi-finale, Cameroun, Angola et Nigeria-Guinée. On va rappeler que les quatre équipes du dernier carré, hein, se qualifient également pour la même occasion, pour la Coupe du Monde de leur catégorie qui aura lieu au Brésil en octobre prochain. Alors, Amine nous a rejoint. Bonsoir, Amine. Alors, et donc, on évoquait tout à l'heure le problème de ces trucages d'âge, on va dire comme ça, mais il faut craindre, hein, que certains de ces joueurs, justement, peut-être qualifiés pour le mondial prochain de leur catégorie, soient récalés, hein, par l'IRM de la FIFA.
Ou tout simplement ne figurent pas sur la liste de leur équipe nationale, puisque s'il y a, je dirais, triche volontaire, on ne retrouvera pas ces joueurs. Si, visiblement, il y a de la bonne foi, ils seront recalés sur le test FIFA. Mais vous aurez remarqué quand même que 6 joueurs ont été éliminés avant le début de la compétition, dont 3 figurent dans la liste de l'équipe du Cameroun, 2 sur celle de la Tanzanie, 1 sur celle de Guinée. Donc visiblement, on n'a pas pris en compte, en tout cas, les recommandations de la Confédération africaine de football, celle d'amener des joueurs nés en 2002-2003. Donc à partir de là, qui peut, garantir que les autres joueurs ne sont pas nés une année avant. Vous savez, dans ces catégories de jeunes, 6 mois de différence, c'est énorme sur le plan morphologique. On est en pleine période de croissance, on est en pleine période d'adolescence, on est en pleine période où on gagne de la masse musculaire, on est en train de prendre, de l'assurance sur le plan physique. Donc, j'attends de voir la suite des événements, puisqu'il y aura 4 nations qualifiées, elles sont déjà connues, et on verra dans quelle mesure certains de ces joueurs figureront sur la liste de ces équipes nationales pendant le prochain mondial au Brésil. J'aimerais aussi qu'on fasse la traçabilité de ces joueurs au moment où ils apparaîtront en U20, voire en U23, voire en senior. Est-ce que ces joueurs-là vont éclore, vont s'épanouir, vont connaître une carrière avec une maturation à partir de 25-26 ans déclarée, où ces joueurs vont disparaître de la circulation. Et dans ce cas-là, le cas échéant, on se rendra compte qu'il y a eu une énorme tricherie. On ne prend aucune part, on prend part à ce débat de la manière la plus objective possible. C'est un cas qui est un mal endémique en Afrique. Il y a eu des précédents. J'espère que ces précédents, que l'actuelle CAF va mettre fin à ces pratiques et qu'en Afrique, on aura enfin des compétitions de jeunes crédibles. Et quand on parle de crédibilité, on parle d'égalité des chances.
Merci bien, Amine. Alors, Amdine Sy nous a rejoint. Amdine qui est en France. Bonsoir, Amdine.
Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Vous êtes dans quelle partie de la France présentement, ou dans quelle ville?
Je suis à Rennes, en Bretagne.
Ok, et donc, alors, Amdine, disons, vous me le signalez tout à l'heure, le Sénégal a été débouté dans sa demande, bien sûr, contre la Guinée.
Tout à fait, Yacouba, la nouvelle vient de tomber. Et c'est vrai qu'elle n'est pas encore officielle puisque la CAF n'a pas encore notifié le verdict au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Mais de sources digne de foi, on nous a appris que finalement la CAF a dégoûté le Sénégal. Bon, pour revenir à cette affaire, comme vous le savez, deux joueurs de la sélection guinéenne, Aboubacar Konté et Ahmed Tidiane, ont été soupçonnés d'avoir fauté sur le stage. Les Sénégalais ont eu quand même le passeport de ces deux jeunes Guinéens qui ont joué quand même un tournoi au Japon, un tournoi où le Sénégal a joué. Donc le Sénégal a mis les vidéos, mais le Sénégal a également montré les passeports où ces deux jeunes sont nés en 2001. Le Sénégal a saisi quand même la CAF. La CAF aussi a invité la fédération japonaise à lui donner ces informations. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. En tout cas, selon une source, on dit que la CAF a dégoûté le Sénégal et la CAF s'est dit, comme il y a eu les tests IRM, on va que se fier à ces tests IRM. Bon, maintenant, on est en train de vous essayer d'en savoir un peu plus puisque ces tests IRM ne sont pas valables à 100% parce que des joueurs peuvent échapper à ces tests. Maintenant, on va voir puisque quand on donne quand même des passeports avec des numéros, tout ça, des passeports de ces autres, je ne vois pas pourquoi la CAF n'a pas sanctionné. En tout cas, c'est un problème. Mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un mal réel. C'est vrai que ces jeunes gris ont été épinglés, mais ça existe partout. Je ne sais pas en Afrique du Nord, mais nous, en Afrique noire, on sait que c'est une pratique courante. Ça existe même au niveau de l'équipe nationale A du Sénégal. C'est pourquoi le Sénégal, au niveau de l'équipe A, on continue à faire confiance à des binationaux parce qu'avec eux, on sait qu'ils jouent avec leur Azrael Yacouba.
Merci bien, Amdine. Alors, sans transition, nous allons parler de ces compétitions africaines, ces coupes africaines à venir, notamment des demi-finales. La rencontre, pour le moment d'ailleurs, la rencontre est à l'Ali du Soudan, étoile sportive du Sahel. En cas de finale retour de la Coupe CAF aura finalement lieu demain au Caire en Égypte. Ce match a été reporté à cause, on le rappelle, à cause de la crise politique qui prévaut au Soudan. L'étoile du Sahel avait déjà remporté la manche aller 3-1. Alors, Élisée, avantage tout de même aux Tunisiens.
Oui, il faut dire que le plus difficile, c'est déjà réalisé, puisque c'est une victoire maîtrisée, des Tunisiens 3-1. Maintenant, connaissant le football soudanais, il faut le dire, puisque rien n'est encore joué, surtout quand Al-Hilal joue à Omdurman, à domicile, c'est une autre pression de football qui se ressemble avec les deux équipes sont des équipes, des clubs professionnels, il n'y a pas tellement de différence entre les deux équipes. Maintenant, c'est après ce problème sociopolitique qui s'est abattu sur le pays, est-ce que le club soudanais aura la mentalité nécessaire pour pouvoir aller au bout des Tunisiens qui sont encore très en forme actuellement. Roger Lemaire, depuis qu'il est arrivé à montrer quelque chose à cette équipe et que déjà en championnat, le club tunisien a fait forte tentation. Donc c'est-à-dire que ça va être un match très disputé, un peu difficile pour les Soudanais, mais pas impossible.
Donc un match un peu difficile pour les Soudanais, mais pas impossible, foi d'Élisée Oumpatine. Alors, il y a une demi-finale, qui est déjà calée, c'est bien celle qui va opposer les Tunisiens du CS Sfaxien qui reçoivent les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane pour l'acte 1. Le vainqueur défiera de Hilal du Soudan, étoile sportive du Sahel, et défiera les autres Égyptiens du Zamalek en demi-finale. Alors, Amine, Berkane a peut-être l'avantage de jouer à l'extérieur pour le match aller, mais il faut bien déjà négocier ce match-là.
Bien négocier ce match-là, surtout en terre tunisienne, face à une équipe expérimentée, rodée, qui a su sortir du guépier d'Encanaro et Devils, en limitant la casse en Zambie de Buzyn et en emportant au match retour. Berkane a peut-être un capital expérience qu'elle a augmenté par rapport à la saison dernière. Elle possède des joueurs cadres dans toutes les lignes, des joueurs expérimentés. Ces vieux briscards ont l'intention d'aller le plus loin possible dans la compétition, l'appétit venu en mangeant. Et leur dernier exploit contre l'équipe kenyane de Gor Mahia prouve qu'ils ont des lignes très équilibrées avec un gardien de but capable de prouesse, une défense assez solide avec Issoufou Dayo, notamment le joueur togolais, et puis un milieu de terrain très équilibré, travailleur, et puis devant, vous avez un des buteurs de la compétition, Labakojo. Ce sont des ingrédients qui sont assez rassurants pour l'équipe marocaine, mais attention, le club sportif sfaxien possède c'est un taux d'expérience. Le vécu des clubs tunisiens, l'ADN, la grinta des clubs tunisiens peut faire la différence. Et puis on rêve, peut-être à voix haute en Tunisie, d'une finale 100% tunisienne entre le club sportif Sfaxia et l'Étoile sportive du Sahel, laquelle vient de remporter la Coupe arabe, une coupe avec une riche dotation de près de 5 millions de dollars. L'arrivée de Roger Lemaire pourrait être également un élément déterminant pour que cette finale 100% tunisienne soit possible. Mais attention, les Marocains vont débarquer avec énormément de matchs, avec une surcharge dans le calendrier, puisqu'ils ont dû surfer entre les rencontres de championnat et les rencontres de Coupe d'Afrique. Ils disputeront un match en retard de championnat mercredi avant de s'envoler pour la Tunisie. Et puis, dimanche, ils devront répondre aux défis et avoir du répondant face à une équipe tunisienne roublarde et expérimentée.
Toujours sur le continent, les matchs aller des demi-finales de la Ligue des champions se jouent le week-end à venir. De choc, l'Espérance sportive de Tunis jouera les Congolais du tout-puissant Mazembe à domicile au match aller avant le retour à Lubumbashi. Alors Jules, Mazembe joue déjà un gros face aux champions en titre, déjà pour ce match aller.
Oui, bien sûr, c'est une finale avant la lettre et même un classique africain de ces dernières années. Donc là, le vainqueur se retrouvera devant un véritable boulevard pour le sacre final sûrement. Donc je crois que dans ce match où il y a une véritable opposition de style, les Tunisiens, comme à leur habitude, seront beaucoup plus tactiques, tandis que les joueurs du tout-puissant Mazembe chercheront à exploiter le jeu en profondeur qui a souvent posé des problèmes aux équipes de l'Afrique du Nord. Mais en tout cas, ça c'est un grand match et tout se jouera sûrement dès le scénario du premier match qui opposera ces deux grandes équipes.
On attendra de voir dans l'autre demi-finale, les Marocains du Wydad de Casablanca reçoivent les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Alors Amine, les Wydadiens devront bien se comporter lors de ce match aller vendredi à domicile avant le déplacement en Afrique du Sud où on se souvient, les Sud-Africains avaient déjà étrié le géant égyptien Al Ahly 5-0 en quart de finale aller. Amine.
C'est aussi un classique du football africain puisque ces deux formations se sont affrontées en quart de finale en 2017 avec une victoire du Wydad au tir au but. Elles se sont retrouvées également l'année dernière en phase de groupe avec encore une victoire du Wydad et un match en Afrique du Sud. Et sur cette année, il y a eu égalité parfaite. Victoire de Mamelodi Sundowns à Pretoria de Buzin et succès du Wydad de Casablanca 1-0 à Rabat. Le Wydad va devoir surtout penser ses plaies et récupérer du derby casablancais qui a été disputé hier à Marrakech. Il s'est soldé par un nul de but partout. Il y a une dynamique de confiance dans cette équipe, mais quelques blessés, quelques éclopés, deux éléments des valeurs sûres de la ligne d'attaque risquent de manquer à l'appel. On a un jeune côté droit et Haddad qui n'est pas à 100% de ses moyens côté gauche, qui pourrait disputer juste un bout de match. Il va falloir donc que Louis Haddad assure l'essentiel, c'est-à-dire ne pas prendre de but à domicile, essayer de marquer avant un périlleux déplacement en Afrique du Sud face à une formation qui n'a pas l'habitude de pardonner chez elle, qui est dans une dynamique de confiance. 5-0 face à Al Ahly, ça booste, ça dope la confiance des joueurs sud-africains. Et puis, c'est une équipe qui connaît le chemin d'une victoire en Coupe d'Afrique, puisque en 2016, elle avait réussi l'exploit de l'emporter en finale au détriment du tout-puissant Zamalek.
Merci bien, Amine. Alors, sans transition, nous allons passer au football européen. Je le rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre la marche, eh bien vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Le Sénégalais Sadio Mané est le seul Africain nominé pour le titre de joueur de l'année du championnat anglais. Son coéquipier égyptien Mohamed Salah, tenant du titre, ne fait pas partie de la liste des 6 joueurs désignés par l'Association des footballeurs professionnels. Liverpool a 2 représentants dans cette liste pour le titre de meilleur joueur de la Premier League cette saison. Sadio Mané, je le disais tantôt, et le Néerlandais Virgil van Dijk. On y retrouve aussi les 3 nominés de Manchester City, Raheem Sterling, Bernardo Silva et Kun Agüero, et celui de Chelsea, Eden Hazard. Alors, Amdine, cette saison réussit décidément mieux au Sénégalais, qui est déjà à 18 buts inscrits en Premier League, soit 6 de plus que son record dans le championnat anglais, et ce n'est pas encore fini.
Tout à fait, Yacouba. Sadio Mané est en train de réaliser sa meilleure saison depuis qu'il est devenu un professionnel, puisque Sadio n'a pas tellement duré en France, puisqu'il a démarré sa carrière en France, mais avec Metz, et il a démarré en
amateur, parce que national, il a fait remonter ses maîtres. Ensuite, il est allé à Salzbourg. C'est de là-bas qu'il a relié l'Angleterre à Southampton, puis à Liverpool. Et cette saison, il est en train de marcher simplement sur l'eau, puisque Sadio Mané est en train de tirer son équipe vers le haut. Liverpool avec Sadio Mané, cette année, c'est autre chose. Vous l'avez dit, 18 buts. Et si on regarde ces 18 buts, il n'y a pas eu de penalty. Donc, si on regarde les deux meilleurs buteurs que sont Aguero et Salah, il est devant deux buts. C'est parce qu'eux, au moins, ils tirent les penalties. Sadio Mané, il délivre des passes décisives. Sadio Mané, dans l'état d'esprit, c'est autre chose. Sadio Mané, avec Liverpool, vous avez vu, demi-finaliste de la Ligue des Champions cette année, est toujours à la tête de ce championnat. Donc, Sadio Mané, c'est pas quand même, je trouve normal qu'il soit nominé dans la liste des meilleurs joueurs. Et en Angleterre, c'est un peu spécial parce que ce sont les joueurs eux-mêmes qui élisent quand même leur père. Ça prouve que les joueurs ont vu tout ce que Sadio Mané est en train de faire avec les Reds de Liverpool. Et je pense que ça va continuer. Et pourquoi pas Sadio continue de se lancer pour devenir le Ballon d'Or, puisque le Sénégal, au niveau du Sénégal, on attend ce Ballon d'Or avec impatience, puisque à part Ela Zidouf qui a gagné ce titre à deux reprises, aucun Sénégalais n'a eu à le gagner. C'est tout le mal qu'on souhaite à Sadio Mané Yacouba.
Merci bien, Amdine. Et sans doute, la CAN à venir va jouer énormément dans le choix du Ballon d'Or. Alors, Élysée, c'est peut-être un début de passation de pouvoir, on va le dire, entre Mohamed Salah, intenable la saison dernière, et Sadio Mané, qui continue de prendre une nouvelle dimension à Liverpool et dans le championnat anglais.
Oui, puisque on l'a remarqué, les victoires décisives de Liverpool cette année, il faut le transmettre à Sadio Mané, même l'année dernière. Le Sénégalais a fait déjà réalisé des très gros matchs, mais le soir a voulu que l'Égyptien soit décisif. Donc cette année, on a senti plus en Salah cette volonté. Il a porté plus l'équipe de Liverpool que Mohamed Salah, de Sadio Mané. C'est l'âme de Liverpool cette année, très décisif, notamment en Ligue des Champions contre le FC Porto, on l'a vu, et peut-être très entendu, très attendu, j'allais dire, en demi-finale contre le FC Barcelone cette année. J'espère que il pourra amener très loin Liverpool, puisque le trio d'attaque de cette équipe de Liverpool, on est très ravis de savoir qu'il y a deux Africains, l'Égyptien et le Sénégalais, même s'il y a un Brésilien en attaque de pointe. C'est-à-dire que le Sénégalais est en train de faire de très bonnes choses dans l'attaque de cette équipe de Liverpool.
Merci bien, Élysée. Toujours en Europe, champion de France avant même de jouer hier, le PSG a tout de même couronné son 8e sacre par une victoire contre Monaco au Parc des Princes 3-1. On retiendra notamment le triplé de Kylian Mbappé. Alors, Jules, Paris a été sacré, mais les Parisiens n'ont pas fêté leur sacre, en tout cas, pas devant leur public au stade. L'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions y est sans doute pour quelque chose.
Bien sûr, puisque c'était la Ligue des Champions était l'objectif premier cette année, et c'est-à-dire passer au moins un cap et arriver en demi-finale, puisque le Paris Saint-Germain n'a fait qu'un quart de finale jusque-là. Alors, donc, cette élimination face à une équipe qu'on avait battue à l'aller a marqué les consciences, et finalement, le public comme l'équipe ont failli divorcer. Donc, je crois que c'est ce qui a fait piétiner, retarder un peu le sacre du Paris Saint-Germain et donner un goût un peu amer à ses supporters. Mais sinon, Paris, je le dis toujours, souffre surtout du manque de concurrence en haut championnat de France. Et on espère que le retour d'une équipe comme Monaco au premier plan, l'arrivée de Lille et le renforcement peut-être de Lyon donneront plus de possibilités d'avoir des sparring partners et d'affronter la grande compétition que l'équipe parisienne veut gagner.
On attendra de voir, mais en attendant, il y a eu des faits dans ce match d'hier, notamment les retours de Neymar et Cavani. En Italie, 8e titre également pour la Juve, 4 jours après sa déception européenne. Eh bien, le club turinois a de nouveau été sacré champion d'Italie pour la 8e fois d'affilée et pour la 35e fois en tout. C'est le 3e championnat majeur remporté par Cristiano Ronaldo. Amine.
Ronaldo met un record triste dans la mesure où l'objectif de Cristiano Ronaldo c'était de remporter la Ligue des Champions avec un 3e club différent. Aujourd'hui, la Juve survole le championnat d'Italie depuis fort longtemps. C'est peut-être le talon d'Achille de cette équipe qui veut redevenir reine d'Europe. Le fait d'avoir un championnat moins compétitif qu'en Angleterre.
Amine, nous sommes en fin d'émission. Merci bien, Amine. Nous sommes en fin d'émission. Malheureusement, on aura le temps de revenir sur ces trois championnats majeurs remportés par Cristiano Ronaldo. Sporama qui s'achève ici.